Leur.
Nous voilà en Albanie, sur Europe 1, tous les jours entre 11h et midi, un voyage. Et nous sommes en ligne avec Béranger Thibault, un Français installé en Albanie depuis 2009. Un pays encore bien mystérieux au cœur de l'Europe. Bonjour Béranger.
Ah,
vous êtes très très loin. Bonjour.
Ah bon ?
Ça y est, je vous entends.
Bonjour, vous m'entendez bien ?
Bonjour.
Voilà, je suis revenu.
Bonjour, vous êtes revenu.
Alors, effectivement, je suis quand même à 2500 km puisque je suis à Tirana.
Vous êtes à Tirana, la capitale de l'Albanie. Alors, votre histoire est assez dingue. Vous êtes parti monter un business à 27 ans en Albanie, un business de maison antisismique. C'était en 2009, à une époque où l'Albanie était encore bien plus mystérieuse qu'aujourd'hui. Quand vous avez dit ça à votre entourage, que vous partiez faire du business en Albanie comme ça d'un coup, comment ça a réagi ?
Ah bah, je vous avoue que les réactions ont été, ma foi, on va dire, un petit peu me questionnant, savoir déjà qu'est-ce que j'allais faire dans ce pays. Les gens avaient un petit peu peur pour moi. Je vous parle pas effectivement également de ma famille ou de mes parents qui, eux, se sont fait un sang d'encre quand je leur ai dit que justement je quittais tout en France pour partir en Albanie. Puisqu'en fait, c'était un pays, comme vous l'avez dit précédemment, c'est un pays mystérieux qu'on ne connaît pas beaucoup, qui pourtant est au cœur de l'Europe, hein, géographiquement. Se situe en plein milieu de l'Europe. Et donc, voilà, les différentes personnes auxquelles j'exposais le projet me prenaient un petit peu pour un fou, me disant au pire, on te voit revenir vivant dans 6 mois. Et finalement, maintenant, bah, j'y suis toujours après plus de 11 ans.
Ouais. Alors, vous allez nous raconter votre histoire, mais il faut quand même rappeler que ce pays qui a une réputation de dureté, une réputation un peu sulfureuse, a passé vraiment des années terribles sous la dictature de Enver vers Hoxha, qui est mort en 1985, donc c'était assez récent. Les premières élections libres ont eu lieu en 91 et il s'est réellement ouvert au tourisme en 2005. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce à quoi pouvait ressembler la vie des Albanais sous cette dictature parce qu'il faut se rappeler de ça quand même.
Alors, il faut se rappeler qu'effectivement, ça a été un des pays les plus fermés du monde. Hein. On peut le comparer réellement à la Corée du Nord ou même à l'Érythrée. Malheureusement, les personnes sous l'époque communisme ont souffert. Je donne toujours un petit exemple, l'exemple des paysans, puisqu'en fait, à partir d'un moment donné, donc pendant le régime du communisme, Enver Hoxha a décidé donc de tout étatiser et justement d'enlever en fait la propriété sur les biens, donc sur les maisons, mais aussi sur tout ce que vous possédiez. Donc imaginez-vous être un paysan qui récolte des pommes, vous avez une centaine de pommiers, tout d'un coup vous êtes obligé de les mettre dans la coopérative, donc de les mélanger avec tout le monde, vous les récoltez et vous ne pouvez même pas les manger. Le soir, vous avez faim à table, alors que toute la journée, vous avez récolté des pommes et vous n'avez même pas pu en mettre une dans votre poche, parce que si vous mettiez une pomme dans votre poche et que vous étiez pris, c'était justement un crime. Et là, vous étiez envoyé donc justement, soit dans des camps ou alors votre famille était déplacée. On a également tout ce qui est religion comme exemple, puisque du jour au lendemain, en fait, toutes les religions ont été abolies. Donc, c'est-à-dire que vous n'aviez plus le droit non plus de pratiquer le culte.
Et quand on va dans ce pays, c'est très intéressant de parler avec les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens d'Albanais qui ont connu cette période, hein, c'est pas si vieux. On vous raconte, moi j'ai voyagé dans ce pays en train, forcément pas mal, et j'ai discuté avec des voyageurs, et on me disait, mais le pain était distribué par l'État, et si on disait qu'il était mauvais, on était envoyé en prison. Alors, il y en avait très peu déjà, il y en avait une fois par semaine. Et si jamais on se plaignait de la qualité du pain, vous alliez en prison, puis votre famille était maltraitée également. C'était une dictature épouvantable, on ne pouvait pas sortir du pays, c'était fermé, même se déplacer à l'intérieur du pays était extrêmement réglementé. Vraiment, c'était très dur. Alors, on ne va pas faire toute l'histoire de l'Albanie, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant à découvrir quand on voyage là-bas. Ça fait partie aussi du voyage. Et alors, Béranger, vous installez là-bas en 2009. Votre business se lance, marche bien au début, puis un peu moins bien, enfin bref. Et puis, vous vous lancez dans le voyage. Vous montez une agence Vacances Albanie en 2013, qui n'était pas un créneau facile. Vous êtes courageux. L'Albanie, ça faisait pas très très rêvé à l'époque, il y a beaucoup d'idées reçues sur ce pays. Pourquoi aller en Albanie ? Comment vous avez réussi à donner envie à des gens d'aller dans ce pays ?
Alors, j'ai laissé parler le pays. C'est-à-dire qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, en Albanie, on peut par exemple parler d'une recette qui fonctionnerait quoi qu'il arrive, puisqu'on a les bons produits. C'est-à-dire que à un moment donné, on a fait des petites vidéos, on a fait des photos, et on a été démarché, donc dans les différents salons du tourisme, on a été toqué aux portes du tour opérateur, et on leur a montré réellement ce qu'était l'Albanie.
Mais qu'est-ce que
comme
vous montrez,
vous le disiez, en fait, les gens avaient une image. Alors, en Albanie, je peux tout vous montrer. C'est-à-dire que dans un pays qui va faire la taille de la Bretagne, hein, si je prends une comparaison en France, on retrouve deux mers. On va retrouver la mer Adriatique, la même que ce qu'on peut retrouver au Monténégro ou en Croatie, comme vous en aviez parlé également. Ensuite, on a la mer Ionienne. Donc celle-ci, c'est la même qu'on va retrouver au niveau de la Grèce. Donc on est déjà un pays qui est ouvert sur deux mers, et deux mers magnifiques. Ensuite, on est également un pays de montagne. On a des montagnes qui peuvent monter à 2200 mètres. On a également des lacs. Hein. On a par exemple le lac de Pogradès en Albanie, qui est un des plus vieux lacs au monde, hein, comme le lac Baïkal, avec même des espèces endémiques comme le koran, qui est une sorte de truite saumonée. Et ensuite,
et
également,
ce que je me permettrais de rajouter, excusez-moi, je vous interromps, c'est que c'est des paysages effectivement de montagne très reculés. C'est-à-dire que on a l'impression assez vite, quand on circule en Albanie, d'aller dans des bouts du monde.
Oui, d'être des pionniers presque.
Presque. Ouais. Et parce qu'il n'y a pas encore énormément de visiteurs. Et donc, il y a vraiment une sensation, parce qu'il faut prendre des petites routes très tortueuses, il faut circuler pendant longtemps. Et on a l'impression d'être un peu des découvreurs. Et c'est aussi ça le charme de l'Albanie.
Écoutez, je vous le confirme, hein, comme j'ai justement toujours l'habitude de dire, les gens en fait ont eu une impression d'être un Indiana Jones. C'est d'ailleurs beaucoup les voyageurs en fait qui ont après fait la réputation de l'Albanie, puisque quand vous veniez en Albanie comme moi, quand j'ai monté mon business là-bas, si demain, même demain, essayez tout de suite de dire « je vais en vacances en Albanie », les gens vont vous regarder avec des gros yeux en vous disant « mais pourquoi tu vas là-bas ?» Donc, les gens ont un peu une impression, c'est ça, de découvreurs, d'Indiana Jones, comme je peux dire. Donc, forcément, quand ils reviennent, ils sont très fiers de montrer le pays, ils sont très fiers de montrer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont goûté, puisqu'on a également une très bonne gastronomie en Albanie, avec des produits frais. Hein. On a du bio, nous, on peut vraiment parler de bio. Comme vous parliez au niveau des plantes, on est un réservoir de plantes médicinales. Quand vous venez chez nous, vous allez reconnaître le goût d'une tomate. Hein. C'est pas une boule rouge d'azote sans goût. Là, vous avez vraiment le goût d'une tomate, un petit filet d'huile d'olive. Et voilà, vous avez un déjeuner qui peut être parfait.
Jean-Bernard, vous avez beaucoup arpenté les routes, j'allais dire les routes bulgares. Ça
c'est pas voir. Si loin que
c'est
ça.
Pas ouais. Si loin. Les routes albanaises, c'est ça, on a cette sensation un peu de pionnier, un peu.
Bah, plus que de pionnier, moi j'ai eu le sentiment d'être un aventurier, on en parlera tout à l'heure, les fameuses Alpes dinariques qui se trouvent au nord du pays, mais c'est un bout du monde incroyable. Puis il y a des gorges encaissées, il y a des vallons, enfin il y a des vallées qui sont en cul-de-sac en plus. Ouais. C'est exceptionnel.
Avec des villages perdus. Moi je me rappelle sur un de ces lacs, je ne sais plus lequel c'était, j'ai un petit trou de mémoire, il y avait une navette pour traverser
avec un car sur un bateau.
Oui,
oui, j'ai vu ça.
En fait, je crois que c'est là qu'il va à Shkodra, il me semble.
Je ne sais plus.
On peut demander
notre avis. C'est le lac de Coman.
Oui, c'est Coman. Et c'est un bateau-bus. Mais en fait, c'est un bus transformé en bateau.
C'est le seul moyen de se déplacer pour les habitants qui habitent le village au bord de ce lac, d'ailleurs.
C'est ça, je crois qu'ils n'avaient pas... Je ne sais pas bien l'histoire, mais je ne me rappelle plus. Ils avaient installé une cabine d'autocar sur un bateau pour faire une cabine pour les passagers. Mmh. C'est un engin totalement improbable. Et on rencontre des choses comme ça complètement surréalistes en Albanie. Vous avez...
C'est vrai que l'Albanie...
Oui, pardon, excusez-moi, je savais que vous alliez reprendre, mais comme il y a eu un petit blanc, je ne savais plus. Je vous écoute.
D'accord. Non, c'est vrai que justement, en Albanie, ce côté aventurier, ce côté un petit peu hors norme qu'on va retrouver, plaît beaucoup aux gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, c'est les personnes qui ont développé l'Albanie, outre nous en tant qu'agence de voyage, c'est aussi les voyageurs qui sont venus, qui ont parlé après de leur voyage et qui sont en fait les meilleurs ambassadeurs du pays.
Bon, Nathalie ?
Moi, j'ai juste une petite question pratique. Moi, je parle couramment l'albanais, hein, comme chacun sait. À part bonjour et comment ça va. On parle surtout l'italien, c'est ça ? C'est toujours vrai ?
C'est ça, c'est toujours vrai. Hein. En fait, ça vient également au niveau donc de la dictature pour refaire un petit saut là-dessus. C'est vrai qu'il y avait une seule chaîne de télévision à l'époque du communisme, et en fait, les Albanais avaient déjà pris l'habitude de pirater un petit peu en douce pour aller prendre des chaînes italiennes. Donc, on a eu déjà cette base, et ensuite, lors de l'ouverture du pays, forcément, le pays frère entre parenthèses, hein, puisque il y avait eu en même temps un passé avec l'Italie en Albanie. Fut les Italiens. Et donc, les personnes ont regardé les dessins animés en italien, les films en italien, les radios italiennes, ce qui fait que avec le temps, ils se sont mis forcément à l'italien. Je précise également que l'albanais est très doué dans les langues. C'est étonnant. En fait, vous mettez un Albanais 3 mois dans un pays, peu importe le pays, parce que la diaspora albanaise est énorme dans le monde, et ben, au bout de 3 mois, l'Albanais va réussir à parler la langue. Ils sont extrêmement doués pour ça.
Restez avec nous, Béranger Thibault. Je rappelle que vous êtes en direct depuis Tirana, la capitale de l'Albanie. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, 11h midi. Et si on partait ?
Philippe Googler.
Nous sommes en Albanie, sur Europe 1, dans « Et si on partait ?», ce que vous entendez, c'est un chant albanais qui évoque les luttes de ce peuple face à l'histoire. Et l'instrument un peu particulier que vous entendez, ça s'appelle le lauta. Nous sommes en direct depuis Tirana, en Albanie, avec Béranger Thibault. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu, Béranger, des Albanais, parce que ils ont la réputation de parfois être un peu sombres, et c'est vrai, pour les avoir un peu côtoyés lors d'un voyage, il y a chez eux, je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, une certaine noirceur. C'est comme si on devait toujours un peu raconter un peu le malheur pour mieux vivre avec, le faire sien, et puis le laisser passer. Moi, j'ai perçu ça comme ça. Vous êtes d'accord ?
Alors, cela vient un petit peu, en fait... c'est-à-dire qu'au départ, au premier abord, c'est vrai que en Albanie, voilà, vous pensez que l'époque communiste est passée par là, donc vous ne deviez pas montrer vos émotions, comme on avait dit pour le pain, vous ne deviez pas dire non plus que le pain était mauvais. Donc en fait, les Albanais ont pris l'habitude d'être neutres. Par exemple, les filles albanaises ne sourient pas dans la rue. Par contre, c'est vrai que on va dire, une première approche visuelle est tout de suite balayée dès qu'on va rentrer en contact avec les Albanais, ou que les Albanais vont rentrer en contact avec vous. Puisque dès qu'ils vont vous entendre parler une langue étrangère, il faut savoir que l'étranger, c'est un culte en Albanie. Donc, ils ont été coupés du monde pendant des années et des années. L'étranger était, entre parenthèses, un roi, était quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de toucher. Et donc ça, c'est resté avec le temps. Il n'est pas, je veux dire, quand vous êtes dans un bar en Albanie en train de parler avec vos amis en français, vous pouvez très bien avoir un Albanais qui se retourne et qui va vous dire quelques mots de français, puisque pendant justement le régime de la dictature d'Enver Hoxha, la seconde langue, à un moment donné, était le français enseigné à l'école.
Ouais. Et donc il ne faut pas s'arrêter.
Donc, et vous au niveau avez... des Albanais.
Ouais. Pardonnez-moi, voilà, il ne faut pas ça, s'arrêter à la première impression. Vous avez tout à fait raison, c'est vrai, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais ça, maintenant que vous le dites, c'est très juste. On peut avoir une impression un peu de froideur, un peu rude, presque hostile comme ça. Mais en fait, non, il faut dépasser ça, faire un grand sourire, y aller, écouter l'histoire, et après ça se passe bien.
Pour retrouver leur côté méditerranéen, Philippe.
Mais oui, tout à fait. Ça. Vous avez raison. Et il y a une tradition que j'aime beaucoup là-bas, c'est le soir à partir de 18h dans les villages, c'est le Giro.
Giro.
Racontez-moi le Giro, Béranger.
C'est ça, Giro. Alors le Giro, c'est ce que j'appelle moi un petit peu la Dolce Vita albanaise, c'est-à-dire on prend le temps. Et on se balade. Le Giro, en fait, à 18h, vous disiez, on l'a, donc dans les villages, ça se voit énormément, mais on l'a aussi toujours à la capitale. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient donc de l'époque d'Enver Hoxha, et ça a été perduré. En fait, ensuite, toutes les personnes vont s'endimancher, vont bien se mettre, et on va en fait faire le tour de la rue principale. Donc, par exemple, dans les villages ou dans les petites villes, la rue principale est même coupée à ce moment-là, elle est rendue piétonne. Et en fait, vous avez avez comme ça les gens qui se baladent bras dessus, bras dessous. Vous avez les gens qui viennent s'installer au café. C'est le moment de, justement de rencontrer votre voisin, de rencontrer quelqu'un d'autre du quartier, ou alors pour les plus jeunes de s'essayer un petit peu, on va dire à la drague, des petites choses comme ça, d'échanger des regards en fait.
Et on s'habille bien pour ça. Tous les soirs à 18h, on met son costume du dimanche.
Alors, si vous prenez justement les anciens, c'est-à-dire que maintenant, effectivement, la nouvelle génération ne s'endimanche plus forcément, hormis peut-être le week-end, mais si vous prenez justement les anciens, vous allez les voir, costume, cravate, avec leur petit chapeau, leurs lunettes de soleil, et ils vont se balader justement comme ça. Donc, pour des raisons en même temps de santé, parce que comme ça, vous pouvez sortir, vous pouvez faire une petite balade quand c'est un peu moins chaud, hein, parce qu'il faut savoir qu'en Albanie, comme on est justement dans le sud, on est un pays très chaud. Je sais qu'en ce moment, en France, il pleut ou il fait frais. Moi, je vous parle, j'ai quand même une quarantaine de degrés.
Ouais. Alors, parlons un petit peu de la capitale, Tirana, qui est une capitale, je trouve, avec une ambiance un peu, pour nous, un peu provinciale, très paisible, avec un mélange assez étonnant d'architecture communiste, avec ses grandes fresques, des buildings, et puis en même temps, une architecture italienne très présente. On ne s'attend pas trop à ça. Et puis surtout, il y a ce qu'on appelle le bloc au centre de la ville. Et ça, c'est un quartier de Tirana qui était réservé à l'élite pendant la dictature. C'est-à-dire que le peuple n'avait pas le droit d'y aller. Tout un quartier était fermé, était réservé à l'élite. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, Béranger, en fait.
C'est ça, un peu comme, on va dire, une sorte de pied de nez à l'histoire. Quand le pays s'est développé, comme c'était un quartier que les personnes, enfin que les Albanais n'avaient pas le droit de côtoyer ou même de rentrer, quand le pays s'est développé, c'est là où les Albanais sont venus installer la vie nocturne, la vie des bars, les boîtes de nuit, les restaurants. Donc c'est vrai que le bloc est toujours d'aujourd'hui le quartier le plus animé de Tirana, où vous avez des défilés de voitures de sport le soir, les demoiselles qui se sont également habillées pour sortir. C'est vraiment un quartier vivant en fait. Et la capitale est également une capitale vivante.
Tout à fait. Jean-Bernard, comment vous avez vécu le bloc ?
Moi, j'ai adoré le bloc parce qu'il y a aussi plein de fresques murales, des peintures murales sur les bâtiments. Il y a une touche colorée qui est exceptionnelle dans ce bloc, avec bien sûr en plus tous ces fameux bars et cette animation. On boit du raki, c'est une super ambiance.
Avec plein de terrasses.
Et des terrasses.
Nathalie, vous adoreriez, vous devriez essayer l'Albanie.
Mais oui, Nathalie,
on vous
y emmène.
Non, mais moi j'aime beaucoup l'homme albanais. C'est pas ça que je veux dire, évidemment. C'est pas du tout ça.
Vous pouvez développer ?
Pas du tout ça que je voulais dire. Non, je suis sensible aux couleurs également. Car je dis n'importe quoi, je me prends. J'ai regardé les images, les photos de Tirana et tout ça. Et je trouve que la colorisation qui est en partie due à l'ancien maire, qui était un peintre et basketteur, qui est aujourd'hui Premier ministre, mais qui, aux dernières élections, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas qui a colorisé pas mal de bâtiments.
Il est toujours
Premier ministre, très bien. Je vous remercie beaucoup. et c'est vrai que ça donne une impression très étrange, toutes ces couleurs peintes comme ça, les murs, ça, c'est sympa, je trouve.
Béranger ?
C'est vrai, moi je vous confirme également, on est donc justement Edi Rama, donc pour ne pas le citer,
oui, c'est lui.
Qui est justement le Premier ministre et qui a été maire de Tirana, a décidé quand il est devenu maire de Tirana de coloriser la ville, puisque on était assez grisâtre dans ce temps-là, donc des couleurs aussi bien du jaune, du rouge, du bleu ont été partout au niveau des buildings, et c'est vrai qu'on a été également les précurseurs, entre parenthèses, dans le street art, toutes les cabines d'électrique, tous les abris de bus, toutes les choses comme ça ont été effectivement peintes. On retrouve des fresques dessus, ou même des dessins avec un Superman, avec par exemple les Mignons, des choses comme ça. Et au niveau de l'architecture, je vous le confirme également, quand vous êtes à la capitale, vous pouvez totalement retracer en fait l'histoire de l'Albanie. On va partir des petites maisons qui elles sont faites en fait avec de la terre, donc qui étaient les premières maisons de Tirana, puisque Tirana jusque dans les années 1920 était un village, c'est devenu la capitale ensuite, et on va pouvoir retracer l'histoire en passant donc par l'architecture, ce qu'on appelle brutaliste, qui est une architecture communiste, avec également des palais italiens. Au jour d'aujourd'hui, si vous venez, on a des buildings de verre avec des formes concaves, ou alors des formes oblongues, des choses comme ça. on peut justement, dans à Tirana, même faire en fait un tourisme architectural et découvrir au coin d'une ruelle.
Et encore une fois, c'est un voyage très surprenant. Parce qu'on trouve à Tirana et en Albanie des choses qu'on ne voit pas ailleurs. C'est vrai que ces buildings avec des grandes fresques communistes, etc., qui sont relativement récentes, hein, on est dans les années 80-90, c'est assez étonnant quand c'est mêlé avec de l'architecture italienne. C'est vraiment un voyage fascinant. Béranger Thibault, merci beaucoup de nous avoir parlé merveilleusement de votre Albanie. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'agence Vacances Albanie et je vous souhaite encore beaucoup de bonheur à Tirana.
Bah écoutez, merci beaucoup et je donnerai juste une dernière petite précision au niveau de l'Albanie qui est en fait justement par rapport, on va dire, à sa réputation. Venez en Albanie, vous allez voir qu'en fait dans ce pays, vous retrouvez une sécurité que vous n'avez plus des fois dans certains pays du monde. Vous pouvez très bien laisser votre téléphone portable sur la table, aller aux toilettes et revenir, votre téléphone portable est toujours sur la table.
Alors, Nathalie est rassurée, la joie. Hein. Non, merci Nathalie.
Non, mais...
merci beaucoup Béranger, dans un instant.